Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30.
Bonsoir à tous, nous sommes lundi 5 février 2024, il est 17h30 et vous êtes sur Prune 92 FM. Bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne d'actualité locale. Je m'appelle Martin et avec mon équipe, nous avons le plaisir de nous retrouver tous les lundis pour une heure d'échange sur l'actualité nantaise. Dans le sommaire de ce soir, nous avons le plaisir d'écouter le troisième épisode de la chronique de Perrine sur l'espoir fait vivre, suivi d'une première musique de Tash Sultana. Ensuite, pour marquer l'avant-dernier jour des soldes, nous ferons une petite pause cadeau avec Esteban qui offrira à l'un d'entre vous deux places pour le concert de la chanteuse contrebassiste Célène Saint-Aimé qui se produira au Panonica ce mercredi 7 février 2024. Nous vous ferons découvrir son titre The Ring of Neptune. Prisca reviendra sur le portrait de vie de l'artiste Gaël Cressant dans le cadre de l'exposition Passage dans les vitrines Open It au Passage Gralin. Nous écouterons un troisième titre musical, cette fois-ci de The Beatles, puis nous terminerons par la chronique de Victor intitulée « Connecter la France et l'Italie ». Mais avant tout ça, nous commençons par Enzo, qui nous fait un zoom actualité sur le jeune collectif nantais militant Automate et leur projet de mise en commun de ressources et de matériel dans l'accompagnement des luttes. Alors à qui s'adresse-t-il et comment s'articule cette mutualisation? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir deux membres du collectif, Dupe et Clark. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être du coup sur le plateau. Ça va être à l'instant du coup dans Curiosité et c'est tout de suite.
Curiosité. Le Zoom Actu.
Je me révolte, donc nous sommes, nous disait Albert Camus, une lutte, une révolte ne peut être égoïste, une révolte, un soulèvement est un mouvement qui a conscience d'être collectif, c'est l'aventure de nous tous et toutes, elle tire l'individu de sa solitude pour rejoindre ceux et celles qui partagent cette étrangeté, ce mécontentement, ou alors pour faire lutte au nom d'une valeur peut-être confuse, mais qui repose sur le soupçon généralisé d'un problème. Elle forme un lieu commun qui fonde sur nous, les humains, la première valeur, ce lieu commun, cet espace d'expression de la revendication est permis notamment par un collectif qui vient de naître, l'Automate, acronyme de l'autonome du matériel, un collectif nantais qui soutient vos luttes en vous fournissant du matériel divers et varié pour organiser vos événements et battre parfois le pavé. C'est ici la naissance peut-être d'une plateforme logistique de la lutte. En clair, nous nous révoltons, nous vous aidons, telle serait la devise de ce collectif. Et qui de mieux pour nous en parler que Clark et Dupe, deux membres du collectif Automate. Merci d'être avec nous. Quelle était la motivation pour créer le collectif Automate à Nantes, surtout à Nantes?
Bonsoir. T'as un flow et tout. Hein. alors, à la base, nous, on traîne avec des copaines rennais-rennaises. Mm-hmm. Nous, on estime beaucoup de savoir-faire en termes d'organisation collective de choses autour des luttes. Et notamment à Rennes, il existe un collectif qui s'appelle la Mutmat. Et c'est en faisant des actions et en participant à des événements organisés avec du matos de la Mutmat qu'on s'est rendu compte de l'importance d'avoir cet outil collectif à disposition plutôt que pour chaque petit groupuscule ou pour chaque petit organe politique d'avoir à trouver du matériel, voire à louer dans un cadre de profit, quoi.
Parce qu'à la base, quand il y a des manifestations ou autres, le matériel qui est utilisé par les manifestants est loué, acheté à des entreprises.
Bah, par exemple, ça nous est arrivé de nous rendre sur des mobilisations de grande ampleur, notamment des luttes écologistes, où il fallait beaucoup pour accueillir beaucoup de public. Et dans ces moments-là, il faut pouvoir protéger avec des barnums, des chaises, des tables et tout ça, on le trouve rarement dans son grenier, quoi. Et c'est là qu'on est amené à louer, quoi, pour du matos électrique, tout ça. Donc, on a vu, quoi, l'importance que ça avait dans l'organisation d'une mobilisation, quoi, d'avoir tout ce matériel à disposition.
Est-ce qu'il manquait un collectif comme celui-ci à Nantes? Il n'y en avait pas jusqu'alors?
Pas à notre connaissance.
Et de quoi il est inspiré, ce mouvement de réunir du matériel? C'est parti de lutte, comme vous avez dit, où il n'y en avait pas assez. On se dit faire un collectif qui permettrait de réunir du matériel faciliterait la lutte.
Du coup, on voit bien qu'à Rennes, ça a son effet. Et d'ailleurs, les copaines de Rennes, de la Mutmat, prêtent bien ailleurs qu'à Rennes. Et ont notamment beaucoup de collectifs nantais qui leur font des demandes, quoi. Et à force d'en parler. Et puis, LE à la Mut souhaitaient aussi que leur idée se répande, quoi. Et ils nous ont offert la chance de nous donner clé en main tout ce qu'il nous fallait.
Et donc vous êtes organisés ensemble, vous êtes combien dans le collectif là à l'heure actuelle?
Alors actuellement on est trois,
ouais.
Mais on est ouvert, s'il y a des gens qui veulent venir prêter la patte, c'est avec plaisir. De toute façon vous connaissez les gauchos, nous on est anti-tout, on est même anti-kiloutou.
Ouais.
C'est ça l'idée, c'est... en fait, on voit sur des rassemblements politiques des collectifs qui ne sont pas encore autonomes en matériel, qui se retrouvent à faire des levées de fonds, souvent pour des causes que nous, on estime chouettes, mais qui doivent reverser une grosse partie des fois de l'argent qui est levé pour pouvoir avoir à ce moment-là une sono ou même un mégaphone pour leur manif, quoi. Donc l'idée, c'est... de se dire, on va essayer de rendre les choses plus faciles à organiser pour qu'il y ait moins de pertes d'énergie sur juste les questions logistiques.
Mmh.
Et du coup, que les personnes qui ont de l'énergie pour lutter puissent le faire d'une manière plus simple et sans que ça en remplisse les poches de personnes qui, a priori, partagent même pas forcément leurs idées de lutte, quoi.
Et quelles sont les valeurs du collectif? J'imagine que vous faites des choix dans l'octroi du matériel et des événements que vous voulez, auxquels vous voulez prêter du matériel. Sur quoi se basent ces choix?
Ouais, nous on a un critère d'emprunt, c'est déjà que l'événement que tu organises doit être gratuit ou à prix libre.
Oui.
Parce que si nous on fait quelque chose à but non lucratif, ça n'aurait pas de sens de le prêter à toi si toi ton but c'est de faire de l'argent. Après ça, c'est pas parce que t'es gratuit qu'on va forcément être d'accord avec ce que tu fais. Nous, tant que potentiellement tes idées sont pas en opposition avec les nôtres, mm-hmm. je pense qu'on peut envisager de te prêter du matériel. Après, si clairement, par exemple, nous, on défend une cause et que toi, dans ta vie, ton plaisir, c'est de défendre absolument l'inverse, il y a peu de chances qu'on travaille ensemble.
Ouais. Est-ce que c'est difficile de trouver du matériel à votre échelle dans ces débuts?
Alors, pour l'instant, on n'a pas forcément eu le problème de trouver le matériel. D'ailleurs, on nous a fait un petit peu don aussi. Pour l'instant, on n'en possède pas beaucoup, mais ce n'est vraiment pas une question de le dénicher. C'est plus qu'on attend des collectifs nantais qui, elles, nous contactent pour qu'on sache en fait quels sont les besoins. Parce qu'en fait, on sait qu'il y en a, mais on n'a pas encore réussi à cibler lesquels ils sont. Donc, on attend, on veut vraiment... Nous, on a des choses en tête, mais on aimerait vraiment mutualiser des choses qui pourraient être mutualisées, quoi.
Ouais.
Nous, là, pour l'instant, on possède quelque chose, mais elles sont intéressantes que si elles le sont pour d'autres, quoi. Et c'est vraiment ça qu'on recherche, quoi. Entrer en contact avec les collectifs militants et pour se fournir, je crois que jusque-là, on n'a pas trop de problèmes.
Oui, parce que acquérir du matos, c'est une chose, mais si on acquérit des choses qui servent à rien, juste on va faire des tas, quoi. Mm. Là, par exemple, nous, on s'est dit que peut-être qu'un groupe électrogène, ça allait être pertinent. Mm. Donc on a acheté un groupe électrogène, mais si dans 6 mois, personne ne nous l'a emprunté, c'est qu'on a raté le coup. Donc plutôt, actuellement, nous, on se dit, c'est trop bien si les collectifs et personnes qui organisent des choses en lien avec les luttes à Nantes entendre parler de nous et se disent « Ah, trop chouette, moi j'en avais marre de toujours louer, je sais pas moi, ma sono au même endroit, et si ça peut être à prix libre et qu'en plus l'argent que je vais donner pour ce matos, il va juste servir à acquérir d'autres matos, qui va encore plus faciliter mon prochain événement, ça a du sens, quoi. »
Vous avez déjà aidé des événements depuis le début, là vous avez...
Pour l'instant, non. Nous, on a fait notre première réunion il y a 2 mois,
ouais.
Je crois. Hein.
Ouais.
Donc vraiment, il y a 2 mois, on a reçu le fascicule de la Mutmat et on s'est dit, bon, allez, on y va sans trop savoir dans quoi on se lançait. Donc on a fait notre petite soirée de lancement à la dérive à Nantes. Mm-hmm. où on a servi nos fameuses pizzas, où on a pu du coup la rencontrer un petit peu, mais on n'a pas encore on n'a pas encore servi vraiment de lutte. On a un collectif qui nous a demandé là un achat de matériel pour la première fois, donc ça nous fait trop plaisir, quoi.
Ouais.
Mais pour l'instant, non, pas vraiment. On a quelques pistes, mais c'est pas encore concret.
Lesquelles?
On a des copains qui s'amouragent de la fête libre, qui auraient bien besoin de matériel. Donc, je crois qu'on va partir sur un petit peu de son et de lumière. On a l'association Bassi Bouzouk aussi, qui aimerait qu'on puisse lui prêter des choses. Là, le collectif en question, c'est le collectif d'assistants d'éducation du 44.
Ouais.
Donc voilà, pour l'instant, c'est assez éparse.
Et quand vous avez des demandes, vous vous organisez comment? Du coup, on vous demande combien de temps à l'avance pour des événements
Ça dépend de l'organisation des gens qui nous demandent. Idéalement, suffisamment à l'avance pour que nous, on ait le temps de leur dire si le matos il est dispo, voire qu'on puisse l'acquérir si nécessaire. Après, par exemple, à Rennes, tout ça, c'est très institué. Tous les collectifs organisateurs d'événements, ils savent que la Mutmat existe et c'est un réflexe militant. Bon, à Nantes, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Pour le moment, il y a des gens qui organisent des choses à Nantes et ils ont leurs habitudes, voire ils ont leur matériel. Parce que vu qu'il n'y avait pas ce dispositif-là...
Ils se sont organisés eux-mêmes.
Et forcément, ça prend un peu de temps avant que les gens, ne serait-ce, soient au courant qu'on est là et qu'on propose ce service et qu'ensuite, ils en aient besoin. Nous, ce qu'on se dit, c'est que avec un peu de chance, dans ces collectifs locaux qui sont déjà auto-organisés, y en a peut-être qui vont se dire le projet est chouette et on va peut-être mettre notre matériel à disposition ou ce genre de choses. On a déjà eu une personne qui nous a contacté en nous disant moi je trouve que l'idée elle est cool, j'ai tel objet et je vous le mets à disposition si ça vous va, je vous le donne et puis comme ça vous pouvez le prêter, quoi.
Ouais. Vous continuerez à faire des soirées pour récolter du matériel ou vous chercherez vous-même là où on peut vous en donner?
A priori, on ne va pas, pour le moment, avoir suffisamment d'emprunt pour être autosuffisant juste avec l'entrée du prix libre.
Mm-hmm.
Donc, au moins, au début, on va continuer de temps en temps à faire une soirée de soutien pour pouvoir rentrer un peu d'argent liquide et acquérir le matériel qui nous est demandé, quoi.
À trois, c'est assez pour un collectif comme celui-ci ou à terme, il faudrait qu'il grandisse?
Une multinationale.
Non, pour le moment, pour la charge que l'on a, c'est suffisant, je crois. Pour l'instant, on est vraiment encore sur de l'organisation, quoi. Donc, tant qu'on n'a pas des emprunts sous les deux jours, trois, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on aimerait, en fait, pouvoir être plus, notamment parce qu'on pense qu'il y a plein d'idées qu'on n'a pas encore eues. Enfin, je veux dire, c'est le principe même des luttes qu'on mène, quoi. On veut que ce soit collectif et... Je pense que plus on sera et plus ça pourra avoir vocation à
grandir.
Aider, quoi. Ouais, c'est ça.
Oui, pour l'instant, on n'est pas écrasé sous la charge de travail. Ça
ouais.
Mais c'est avec plaisir si on nous écoute et que le projet intéresse. On peut tout à fait nous contacter sur notre site internet.
Comment on fait pour vous contacter et vous demander du matériel?
Alors, on a un site internet qui est automate44.wordpress.com, c'est ça?
Fait.
Et donc où là on a un formulaire de contact soit directement pour l'emprunt ou alors juste pour nous contacter,
mm-hmm.
qui arrive directement sur notre boîte mail, ou bien on a notre adresse mail qui est auto-mat, donc mat@riseup.net.
Ouais.
Et donc là on est joignable, on tombe sur les trois membres du collectif à la fois pour toute question, quoi, même si c'est pas encore on peut répondre à tout, quoi.
Toute question en lien avec l'automate.
Ouais, ouais. Le collectif Rennais vous aide encore à vous lancer?
Le collectif Rennais, il nous a apporté déjà au début un soutien matériel,
mm-hmm.
À travers un don un peu d'argent pour constituer une caisse et puis un don un peu de matériel. Après, c'est des copains, hein, ils sont dispo si on a des conseils, ils sont dispo si... on a une demande et qu'on n'est pas capable d'y répondre. Parce que avant, l'idée, c'est qu'il y avait des Nantais qui étaient au courant de l'existence de la Mutmat et qui allait jusqu'à Rennes parfois pour emprunter du matos.
Ouais.
Parce que ça reste plus intéressant. Par exemple, quand on loue un chapiteau, ils ont un chapiteau. Normalement, c'est très cher, donc ça peut valoir le coup d'aller jusqu'à Rennes pour aller emprunter un chapiteau. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est que dans un premier temps, il y aura plein de demandes auxquelles on ne pourra pas répondre. Et c'est de réussir à bosser avec la mutte et qui nous donne un coup de main à ce niveau-là pour pouvoir y répondre, quoi.
Vous, le genre de demandes qu'on vous fait ou qu'on va vous faire, ce sont des petits événements qui ne sont pas trop non plus étalés. Ça reste des événements qui sont restreints, d'une certaine manière.
Ben, pour l'instant, on n'a pas encore eu l'exemple, donc on ne se rend pas vraiment compte, mais on aimerait bien que... En fait, peu importe quoi. On est prêt à prêter notre matériel dans n'importe quel événement qui nous tiendrait à cœur. On n'a pas peur d'éventuelles saisies. On sait que ça fait partie du jeu.
Ouais, on n'a pas de chapiteau. Pour le moment, on ne peut pas assumer un gros événement tout seul. Après, on peut faire partie de quelque chose de plus gros. Nous, on s'en fout. L'idée, c'est juste de rendre les choses plus simples, quoi.
Merci. Clark et Dupe, je croyais que vous alliez rajouter quelque chose. Merci Clark et Dupe d'avoir été avec nous pour nous parler de ce collectif qui peut vous aider, chers auditeurs, chères auditrices, associations ou organisations, à vous prêter du matériel pour organiser vos événements ou vos luttes. Restez avec nous tout de suite. Un morceau de l'artiste australienne Tash Sultana et son titre Jungle. Notamment, juste pour la petite anecdote, elle a réussi à s'en sortir de la drogue à 17 ans grâce à la musique, par la musicologie comme quoi. C'est un très beau titre, Jungle, Tash Sultana, tout de suite.
Auditoris, vous êtes toujours sur Prune 92 FM, il est 17h51 et sur cette belle élancée musicale, nous continuons à passer le micro à Perrine sur l'espoir fait vivre. C'est tout de suite dans Curiosité.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Pour cette troisième chronique sur l'espoir fait vivre, où je vous emmène chaque semaine dans un univers en Sion, après élections et institutions, je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue dans le monde de la procrastination. Petit rappel sémantique pour ne perdre aucune auditrice ni aucun auditeur en cours de route. La procrastination est une tendance à remettre systématiquement à plus tard des actions. Le fameux « on verra demain », vous voyez ? Tendance largement répandue dans la population mondiale, ok, on fait toutes et tous de notre mieux dans le respect des accords Toltec, mais quand cela concerne nos hommes et femmes politiques, cela devient particulièrement dérangeant. Non mais sans blague, n'ont-ils pas un réel don à considérer comme absolument prioritaire des débats qui n'ont pas l'absolue nécessité d'être à l'ordre du jour ? À moins que ce ne soit dans l'intention de repousser volontairement à plus tard les choses que des millions de citoyennes et citoyens considèrent comme urgentes et sur lesquelles ils et elles les alertent régulièrement. Qu'à cela ne tienne, contre votre procrastination, moi je vous livre mon procès d'intention. 1. Dérèglement climatique. Au lieu de nous faire tous porter des cols roulés et baisser nos chauffages à 19 degrés en hiver pour soi-disant consommer moins d'énergie, moi, je vous demande de planter des arbres en ville pour conserver la fraîcheur en été et laisser l'eau des nappes phréatiques tranquille. 2. Bien-être social. Au lieu de mettre tout un pays dans la rue pendant des mois sans jamais en écouter la voix, moi, je vous demande de chercher l'argent ailleurs, en sanctionnant ceux qui pratiquent l'évasion fiscale, l'escroquerie ou la maltraitance de leurs salariés, par exemple. 3. Politique internationale. Au lieu de vous aligner derrière les plus puissants et d'en être les piètres marionnettes, moi je vous demande d'avoir du courage et d'être exemplaire en prenant des décisions sensées. Votre peuple en sera fier. 4. Agriculture. Au lieu de pactiser avec le diable pour anéantir après quelques jours de blocage à peine ce qui avait été mis en place au forceps, moi je vous demande de privilégier les initiatives vertueuses et respectueuses de l'environnement et des êtres vivants. 5. Éducation santé. Au lieu d'imaginer toujours de nouvelles réformes déconnectées des besoins réels, moi, je vous demande d'écouter plus attentivement et de revaloriser celles et ceux qui font que nos systèmes ne s'effondrent pas et grâce auxquels la société tient encore debout. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais on verra ça demain. Non, perso, je ne suis pas une adepte de la procrastination. Ma grand-mère me disait toujours « ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même ». Plein de bon sens, ma grand-mère, mais pas ce bon sens que l'on attribue aujourd'hui, je ne sais pourquoi, à la droite. Celui dont je parle est celui qui devrait couler de source de chacune de nos petites têtes bien faites. Du genre, ta baignoire fuit et inonde l'appartement de ton voisin du dessous, tu coupes l'eau. Une personne âgée ne trouve pas de place assise dans le bus, tu lui cèdes la tienne. Tu cultives des légumes dans ton jardin et tu en as trop pour toi toute seule, tu les partages avec ton entourage. C'est bon, tu captes ? Savais-tu que la plupart des psychologues reliaient la procrastination à l'anxiété ou au manque d'assurance ? Eh bien, voilà des pistes pour lutter contre ton anxiété. Sois le premier de cordée à planter des arbres, à soutenir celles et ceux qui défendent le vivant, à appliquer et faire appliquer les lois qui régissent notre démocratie, à exiger un cessez-le-feu en temps de guerre, à t'engager tout simplement, et tu verras que plein d'autres te suivront. Et n'aie pas peur d'être exhaustif. Écoute ton cœur et cherche à lui redonner du baume. Gloire à la procrastination pour les projets inutiles, néfastes et nauséabonds. Sois vertueux, transforme tes intentions en actions. Ta vie prendra indéniablement une autre tournure. Et surtout, n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour inverser les tendances.
Merci Perrine et merci à ta grand-mère du coup d'avoir inspiré cette belle chronique. Tout de suite, on remet pas à demain, pardon, désolé. Mais tout de suite, ça sera du coup la pause cadeau d'Esteban. Ouais.
La pause cadeau.
Ce soir, Prune te fait gagner deux places pour assister au concert de Célène Saint-Aimé au Panonica le mercredi 7 février à 21h. C'est une des révélations de jazz des dernières années, une jeune contrebassiste et chanteuse qui s'ancre dans sa culture créole et africaine. Formée à New York auprès des plus grands, elle a imposé sa patte dès son premier album, Mare Undarum, au cuivre chaud, cordes frappées et percussions qui groove. Son second album, Potomitan, auréolé d'une victoire du jazz en 2021, a confirmé son swing aux accents caribéens, ses textes poétiques et son goût pour une musique aux horizons élargis. La preuve avec ce nouveau set très influencé par sa résidence à la Nouvelle-Orléans, où elle a creusé un peu plus la question des origines musicales et des métissages. Célène Saint-Aimé en est revenue chargée d'un jazz qui mélange des vies et pulse sacrément. Donc pour avoir la chance de gagner des places pour le concert de Célène Saint-Aimé, envoie un emoji soleil sur l'Instagram de Prune. C'est tout pour la pause cadeau d'aujourd'hui. On se laisse avec la suite de l'émission, mais avant, on écoute le morceau The Rings of Neptune de justement Célène Saint-Aimé. Bonne écoute.
Curiosité, l'actu locale décryptée.
Auditoris, il est désormais 17h59, bientôt 18h. Vous êtes toujours sur Prune 92 FM. Vous venez d'écouter le titre de Célène Saint-Aimé. Et tout de suite, dans le portrait de vie, nous recevons l'artiste Gaëlle Cressant. Bonsoir.
Bonsoir.
Elle est invitée par le collectif Open It pour son exposition Passage qui dure jusqu'au vendredi 1er mars 2024. À travers cette exposition, nous parlerons de mouvements, de déplacements, de mutations urbaines et même de scan glitch. Bon, pardonnez-moi du coup pour l'anglais. Mais en tout cas, Prisca du coup sera notre guide médiatrice dans un instant et elle saura certainement mieux le décrire que moi. C'est tout de suite dans Curiosité.
Curiosité, portrait de vie.
Auditeurs, auditrices, c'est une joie que de vous retrouver à l'antenne de l'émission Curiosité du lundi. Ce soir, nous recevons l'artiste Gaëlle Cressant. Bonjour encore Gaëlle, tu vas bien ?
Bonsoir Prisca, très bien, merci de me recevoir.
Artiste multiples tâches, ton travail, je cite, se déploie en sculpture, en installation, en photographie et en vidéo. Tu es actuellement exposé dans les vitrines, d'Open It dans le Passage Gralin. Passage, je rappelle, auditeur, auditrice, avec plusieurs A. Et je rappelle aussi que c'est le nom de l'exposition. Et c'est une installation constituée d'une impression en noir et blanc, grand format, obtenue par la technique du scan glitch. Alors, la technique dont tu parlais tout à l'heure, Martin. Alors, Gaëlle, dis-nous, de quoi s'agit-il au juste? Que permet cette technique?
Alors, il a été judicieux pour moi de choisir cette technique parce que l'idée principale de ce projet, c'est de travailler l'image dans ce qu'elle peut offrir de modifications temporelles, d'étirements, de quelque chose qui se déploie dans l'espace. Et le scan glitch, tout simplement, pour ceux qui connaissent pas, ceux et celles qui connaissent pas, c'est le fait de scanner une image et pendant son scan, donc sur un scanner à plat, hein, tout à fait classique, pendant le scan, en fait, de déplacer l'image. Donc, et d'une, on va avoir des modifications, des aberrations qui vont se créer dans l'image et on va pouvoir étirer une image qui, normalement, a un certain format et là, recréer des formes totalement aléatoires. Et pour l'idée de passage, donc avec plusieurs A, comme tu le dis si bien, c'était l'idée d'un étirement, de découvrir l'image dans un mouvement, dans un étirement.
Donc, je suppose que justement, passage a été pensé spécialement pour les vitrines du passage Gralin, c'est bien ça?
Tout à fait.
Alors, cette proposition questionne les mutations urbaines et les notions de passage d'un état à un autre. Que représente le passage justement pour toi? Et, ou du moins, quel passage souhaites-tu ici raconter?
Alors ici, c'est une image qui m'appartient pour ce projet spécifique. Je suis allée chercher en fait des prises de vue sur l'île de Nantes, la future île de la création. C'est très personnel. Je fais partie de l'association Millefeuille. Enfin, je suis résidente aux ateliers Millefeuille et nos locaux vont être déplacés. Et on est très contents. On va aller à la Grenote, qui est formidable. Logiquement, on croise tous les doigts. Tout ça, c'est pas pérenne pour les artistes. Il y a effectivement des temporalités qui sont plus ou moins longues. Mais l'idée de mutation, nous, les artistes, on est très, très, très soumis en fait, aux mutations urbaines parce que le foncier, c'est un peu le nerf de la guerre pour tout le monde. Et voilà, c'est quelque chose qui est personnel et j'avais envie de parler de cette mutation de Nantes au travers de ce travail. Et avec Openic, qui est une association qui œuvre justement à travailler dans des espaces autres pour montrer de l'art contemporain, cette idée de mutation, elle rentrait bien en résonance avec leur projet.
Et comment réussir à figurer à mettre en image le passage, disons, l'image n'est-elle pas justement ce qui fige et retient toute forme de mutation?
Eh bien, j'aime beaucoup cette question parce qu'effectivement, elle se pose. Après, là, le choix a été fait de travailler une image plutôt de l'ordre de l'affichage. On est à l'intérieur d'une vitrine, mais on est quand même sur un principe d'affichage public. Et l'affichage public, il est voué à disparaître, à évoluer. C'était un peu dans cette idée-là. Mais je suis d'accord, c'est une question qui se pose et c'est hyper intéressant.
Ouais. Alors, donc, dans ce cas, dis-nous, s'il te plaît, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que c'est possible de donner à... Enfin, est-ce possible de donner à entendre, à voir par l'oreille, ce qui est ici exposé?
Alors, vitrine, donc déjà l'emplacement. Il faut savoir que le passage Gralin est situé en face de l'espace Cosmopolis, en haut du 14A, pour préciser un peu, et c'est un passage qui n'est pas beaucoup utilisé, mais qui va permettre en fait, de passer d'une rue à l'autre. Et quand on arrive dans ce passage, on a une très grande vitrine d'environ 10 mètres, divisée en 3. Et ma pièce, en tout cas l'image, premièrement, se déploie sur les 3 vitrines. Donc en fait, pour comprendre l'entièreté de l'image, on va devoir se déplacer pour pouvoir la parcourir. Et en plus de cette image en noir et blanc qui est installée sur le fond de la vitrine, j'ai installé des sculptures qui s'appellent les aubes, qui ont été créées entre 2018 et 2021, qui sont des panneaux de signalisation retravaillés. Et dans l'idée, en fait, d'avoir plutôt une signalétique poétique. Et là, la notion de passage est encore renforcée, puisque ce sont des panneaux de signalétique recouverts de films iridescents qui vont évoluer suivant la lumière qui vient les éclairer. Donc, quand on va se déplacer le long de cette vitrine, l'image va évoluer, on va parcourir l'image qui est installée et la signalétique va évoluer de même. Voilà.
Et si tu t'es appuyé sur des archives départementales, en quoi a consisté ce travail de collectage?
Alors justement, pour ce projet, vu la temporalité, l'utilisation d'images venant des archives n'était pas possible. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé une de mes images. Mais pour la suite de ce projet, qui va se prolonger à Saint-Nazaire avec les ateliers du château et avec une sorte de résidence grâce à une aide à la création de la ville de Saint-Nazaire, L'idée, c'est de travailler avec les images d'archives et de réfléchir aussi aux images appartenant aux habitants et de croiser en fait ces images. Qu'est-ce qui devient de l'archive? Qu'est-ce qui reste de l'image vernaculaire? Et comment retravailler ces images qui sont des marqueurs de temps sur un territoire?
Et justement, pour disposer de ces archives départementales, comment tu t'y prends pour y avoir accès?
Alors, il faut savoir que les archives départementales sont accessibles à tout un chacun, à tout un chacune, à toute une chacune. C'est assez protocolaire. J'invite tout le monde vraiment à y aller une fois dans sa vie. On a accès, en fait, on vient, on a une carte, on sélectionne des documents au travers de très gros index, de plein de choses. C'est un peu aussi au petit bonheur la chance, parce que quand on n'est pas pro de la recherche d'archives, on peut tomber sur rien, en fait, sur des boîtes où oui, ça va être intéressant, mais il n'y aura pas d'images, par exemple. Il y aura des plans, Donc c'est tout un monde de découvertes pour moi. Je vais continuer à travailler avec les archives de la ville de Saint-Nazaire, normalement, donc je suis très contente.
Justement, à propos de ces archives, tu dis être sensible aux objets marqueurs d'époque ou de situation. De quel type d'objet parles-tu?
Alors, c'est venu petit à petit, mais je ne l'ai choisi pas forcément comme ça. Il n'y a pas un corpus sur lequel je pourrais travailler dès le départ. Ils sont venus les uns après les autres. C'est vrai que la signalétique, les panneaux de signalisation, ça a été un peu quelque chose qui m'a intéressée, parce que c'était à la fois des formes tableaux, mais totalement inintéressant, en fait. Ça véhicule du signe, ça véhicule des choses, mais ça c'est des marqueurs d'espace auxquels on ne fait pas du tout attention, et moi, ça m'a intéressé de les travailler. Et là, plus récemment, c'est les écrans, pour tout ce que ça peut impliquer culturellement aujourd'hui, l'impact aussi que ça peut avoir dans notre société, dû aux ressources que ça utilise, notre lien avec les images aussi, notre manière de consommer de l'image aujourd'hui. Donc voilà, quand je parle d'objets marqueurs d'espace et de temps, là c'est deux choses très spécifiques, la signalisation, les portables, les écrans, c'est tous ces objets qui ont cette capacité à transmettre de l'information. Et qu'est-ce qu'on en fait quand ça ne transmet plus de l'information? Qu'est-ce que ça transmet d'autre?
En quoi ces objets sont une inspiration pour toi? Je pense ici en particulier à l'objet obsolescence.
Alors justement, ouais, ce sont des écrans. Ouais. Ce travail, il est né de l'observation de smartphones obsolètes. Quand je parle d'obsolescence, c'est-à-dire que HS, hein, vraiment, qui ne marchait plus. J'ai eu la chance de travailler pour la ressourcerie station-service pendant 2 ans. Et cette sensibilisation que j'avais déjà au démarrage de ce projet, elle n'a fait que se confirmer sur l'observation de ces objets qui nous transmettent énormément d'informations, qui sont une espèce de profondeur sans fond d'infos. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça ne fonctionne plus? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui reste à regarder? Et le projet Obsolescence, il est né de là, de savoir qu'est-ce qui reste à regarder sur ces écrans qui sont HS. Et le système que j'ai trouvé, c'était pour être au plus près de cette surface, c'était d'utiliser un scanner à plat pour aller enregistrer tout ce qui reste à voir à la surface de ces écrans.
Je suppose qu'il y a une interprétation à cela. Comment est-ce que tu l'interprètes?
Alors, il faudrait que je fasse une psychanalyse pour ça, clairement. Je pense que c'est ma manière de travailler, de montrer différemment de faire partager comment moi je vois les choses. La seule explication que j'ai, c'est ça. C'est d'essayer de vous montrer, de montrer aux gens de la manière la plus claire possible comment moi, je vois les choses.
D'ailleurs, en parlant de comment tu vois les choses, tu es très sensible à la musique expérimentale et électronique. Tu commences en 2016 des photographies de résonance de fréquences dans des liquides et des solides. Alors, j'ai envie de savoir de quoi il s'agit exactement.
Alors, j'ai rien inventé du tout sur ce projet, mais il faisait suite à une résidence de recherche et de création à Prague, à la Meat Factory, où l'idée, c'était de retracer un petit peu la diaspora française de la musique techno. Quand il y a eu les lois Mariani, ils sont une grosse diaspora de musiciens et musiciennes français et françaises qui sont partis là-bas. Et du coup, j'ai fait tout un travail de recherche. Et du coup, l'idée de travailler avec les résonances, la musique, Ça devenait intéressant sur cette idée de surface, de modification justement de surface, des choses qui me sont chères. Et il y a les expériences de passage de fréquences dans des liquides qui ont déjà été montrées plusieurs fois. Et ça m'a intéressé de les retravailler, de refaire une série de photos avec donc des fréquences hein, qui passent dans des liquides et qui sont refotographiées. Et on voit en fait tous les schémas dus au niveau de fréquence, au niveau sonore, qui sont passés à l'intérieur de ces liquides. Et j'ai eu la chance de pouvoir les montrer pour le voyage à Nantes, sur une très très belle exposition organisée par Evor, l'artiste Evor. L'exposition s'appelait Particules. C'était très bien de pouvoir les montrer.
Avant de poursuivre cette interview et en savoir plus sur ton parcours, on s'accorde une courte pause musicale, justement avec Tomorrow Never Knows des Beatles, une proposition d'ailleurs de notre invité Gaël Cresson. Auditeurs, auditrices, nous sommes de retour dans Curiosité en compagnie de Gaël Cresson, dont le travail artistique est actuellement exposé dans la vitrine d'Openit dans le passage Crallin. On vient d'entendre Tomorrow Never Knows des Beatles. C'est toi qui nous as proposé ce morceau. Qu'est-ce que cette musique t'évoque? Pourquoi l'avoir choisie?
Alors, je suis une fan inconditionnelle des Beatles, tout album confondu, je crois qu'il n'y en a aucun que je n'aime pas. Mais cette chanson en particulier, ce morceau en particulier, il est, je le trouve assez incroyable. On parlait de contemporanéité de cette musique, je pense qu'à l'époque, ça devait faire l'effet d'une bombe. Et il y a une particularité, c'est qu'ils utilisent des boucles sonores dans ce morceau. Et moi qui aime beaucoup la musique électronique, du coup, ça me parle énormément. Voilà.
Ah oui, donc on comprend que la musique occupe une place singulière dans ton travail. Est-ce cela ? Est-ce que ça t'inspire ?
Ça a été plus présent qu'aujourd'hui. Justement, en 2016-2015, où effectivement il y avait cette idée de fréquence qui passait dans les liquides, où en fait le son donnait à voir des choses. Ça m'intéressait beaucoup. Aujourd'hui, un peu moins, mais j'écoute toujours autant de musique.
Plastique, photographie, ton travail est difficile à classer. Comment le définis-tu, Gaël ?
Alors, j'essaie de ne pas le définir. Il y a des artistes qui vont trouver peut-être une technique dans laquelle ils vont être plus à l'aise. Ils vont vouloir devenir spécialiste dans quelque chose. Moi, je pense que je suis pas du tout spécialiste, et justement, c'est peut-être là où je m'éclate le plus, et c'est là où je peux regarder les choses un peu, faire mon petit pas de côté. C'est d'aborder toujours les choses avec un œil nouveau, et j'adapte en fait la technique que je vais utiliser au sujet. Si là, l'affichage, le fait d'utiliser le scan glitch, c'est vraiment très spécifique au sujet. Ça aurait pu être totalement autre chose si ça avait été ailleurs, si ça avait été un autre sujet que j'avais voulu aborder. Donc c'est vraiment, la technique est liée au sujet que j'aborde.
Tu es diplômé en 2010 de la Haute École des Arts de Strasbourg, puis tu pars vivre à Nantes. Après une pause dans ta pratique, tu réengages tes recherches artistiques autour de la notion de surface depuis 2010. Comment a évolué ta pratique ?
Je crois que je suis allée plus loin et j'ai accepté l'idée que la surface était cette notion de surface qui peut être hyper large, très abstraite pour certaines personnes, parce que ça veut dire plein de choses et pas grand-chose en même temps. Mais en tout cas, depuis quelques temps, j'ai accepté que ce soit ma manière de travailler et qu'au travers de la surface, ce soit comme ça que j'aborde le monde qui m'entoure. Je parle souvent de photographie parce que j'ai une formation de photographe avant de faire les arts décoratifs de Strasbourg. Et je parle de mettre à plat le monde à force de regarder à travers l'appareil photo. En fait, c'est les surfaces du monde qui m'intéressent. Donc forcément, les surfaces communicantes, la forme tableau, toutes ces choses-là.
Mais à quel moment concrètement as-tu décidé de mener cette activité artistique et pourquoi ?
Ça revient à mon activité, à mon apprentissage de la photographie. J'ai fait un CAP photo sur Paris en alternance, donc j'étais tout de suite menée à travailler à des photographes de mode, des photographes de pub, des choses très différentes. Et j'ai eu la chance de faire un très très beau workshop avec le photographe Maurice Weiss à Berlin, au sein de ce CAP. Et c'est pendant ce workshop que j'ai découvert la photographie plasticienne. En tout cas, je l'ai approfondie. Et je me suis dit, il va me manquer quelque chose dans ma démarche si je reste photographe, juste photographe. C'est pour ça que j'ai commencé des études d'art. Et la pratique artistique, c'est un métier, mais c'est aussi une vocation, c'est un peu horrible, mais il y a le métier et il y a le reste. Et j'ai décidé de faire les deux. Parce qu'on peut très bien être artiste sans en faire un métier, mais j'ai décidé de faire les deux.
Raison pour laquelle tu es artiste, dont le travail ne peut être classé. Avec ton travail, justement, tu veux poser la question, je cite, « Que reste-t-il à voir ?» Auditeurs, auditrices, vous retrouverez cette citation sur le site de Gaël Cresson. Alors, la question est la suivante. Pourquoi poser cette question ? Que veut-elle dire ?
Que reste-t-il à voir ? C'est pour moi une manière de me poser la question de l'apparition des images, de quelles images, de qu'est-ce qu'on regarde en fait aujourd'hui. On est tellement soumis à une quantité d'images tout autour de nous. Je me demande qu'est-ce qu'il reste à voir en fait aujourd'hui, puisqu'on a tout vu et l'IA va encore nous pondre des choses incroyables. Je ne suis pas contre, hein. Loin de là, je trouve ça hyper intéressant. Je fais même des petits projets où en fait j'utilise les pires logiciels d'IA, mais vraiment les trucs pourris, hein, les trucs qui font 6 doigts à chaque main, ou vraiment des trucs aberrants, j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, ouais, que reste-t-il à voir ? Ce que j'aimerais montrer, c'est des choses qu'on ne regarde pas, qui sont très vides, qui sont très poétiques parce qu'elles sont vides.
ou très minimal en tout cas.
Justement, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Qu'est-ce que tu nous réserves pour la prochaine exposition ?
Alors, je suis très très contente d'annoncer une belle exposition en duo à l'atelier rue de Chateaubriand. Donc, c'est en lien avec la ville de Nantes, avec l'artiste Sophie Caudrin-Artenberger. On a une exposition qui s'appelle Éclat et qui va commencer le 22 mars jusqu'au 28 avril.
Auditeur, auditrice, Gaëlle Cresson nous propose et nous propose de l'éclat dans quelques mois, c'est bien ça ?
Oui, en mars, fin mars.
Auditeur, auditrice, c'est la fin de notre entretien. Merci Gaëlle Cresson de ta présence.
Merci Prisca.
Je t'en prie. On le rappelle, passage est visible jusqu'au 1er mars dans les vitrines d'Openit, dans le passage Kralin.
Merci Prisca et Gaëlle Cresson du coup pour cette interview. Tout de suite dans l'expérience, on va vivre une nouvelle expérience du coup cette fois-ci indescriptible, des fois qui procure des sensations, alors des fous rires, des pleurs ou en tout cas ça procure toujours quelque chose. C'est dans la chronique La Crovic de Victor et c'est tout de suite sur Prune.
Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
Bonsoir, je pourrais ce soir faire comme la semaine dernière, en effet ce ne serait pas les munitions qui manqueraient pour tirer sur l'ambulance, qui est devenu curieux lundi. Cependant, afin de ne pas nuire encore plus à la crédibilité de notre station déjà bien affectée par la fin d'émission de la semaine dernière, n'est-il pas, je vais ce soir vous parler d'un sujet qui a défrayé la chronique il y a quelques semaines ou mois. Je vais vous parler ce soir du projet de ligne ferroviaire entre Lyon et Turin. Petit récapitulatif, voici notre rendez-vous avec...
Ça veut dire quoi ça ?
Pourquoi c'est comme ça ?
C'est où ?
C'est qui lui ?
Un jour, une question.
C'est quoi la ligne Lyon-Turin, Victor ?
Eh bien, voyez-vous, très cher, c'est un projet qui consiste à relier la France à l'Italie via un autre itinéraire ferroviaire, rapide, plus fiable et plus compétitif que celui de la vallée de la Maurienne, qui est d'ailleurs interrompu à la suite d'un éboulement depuis l'été 2023.
Bah, et ce nouvel itinéraire, en quoi consiste-t-il ?
Question ô combien pertinente, mon cher Martin, c'est là le cœur du sujet. Il est prévu, et d'ailleurs déjà commencé, de creuser trois tunnels. Un premier de 23 km par-dessous le massif de la Chartreuse, un second de 20 km en dessous du massif du Veldon, et enfin un dernier tunnel de 57,5 km, plus long du monde, celui du Mont-d'Embin. Alors cela va permettre de connecter comme jamais auparavant les deux pays qui se partageront plus ou moins la facture avec l'Union Européenne, mais cela va surtout dynamiser le secteur du fret ferroviaire transfrontalier. Je m'explique. Aujourd'hui, le rail sur ce secteur n'est pas, ou alors vraiment très peu, compétitif. Il permet peu de volume au vu de la pente, nécessitant des engins de traction supplémentaires, et n'est donc pas rentable. Une fois ce tunnel achevé, on aurait, je dis bien aurait, un doublement de la capacité actuelle en conteneurs. Enfin, le temps de trajet. Avant l'éboulement dont je vous ai parlé, on avait un temps de trajet pour faire Paris-Milan qui était de 7h30. Personnellement, en tant que fan de train, cela ne m'a pas gêné, voire au contraire mis en joie, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, ce qui fait qu'aujourd'hui, un nombre considérable d'aéronefs effectuent des liaisons vers l'Italie depuis la France. Le temps de trajet en TGV passerait à 4h30, devenant moins long et plus intéressant.
Il semblerait toutefois que ce projet suscite des oppositions. Pourquoi ?
Une fois de plus, Martin, vous touchez avec brio un point complexe. De nombreuses personnes se prononcent en défaveur de ce projet. Fin 2022, quelques 150 élus verts et la France Insoumise ont signé une tribune publiée par le journal Reporter préconisant la montée en puissance de la ligne actuelle Dijon-Modane qu'ils jugent sous-exploitée. Attardons-nous sur ce point, car si cette voie est insuffisante, c'est car elle est ancienne. Son fort profil requiert des trains courts, plus de locomotives, et le croisement des trains de fret est interdit dans le tunnel du Fréjus, créant un goulot d'étranglement. A l'inverse, les élus favorables à la nouvelle ligne considèrent que ce Dijon-Modane ne sera jamais à la hauteur des ambitions de développement du fret ferroviaire. Le maire de Brison-Saint-Innocent, Jean-Claude Croze, assure que les élus locaux craignent pour les nuisances qu'entraînera cette ligne, avec des passages à niveau constamment fermés et une ligne historique sur le lac dont on ne sait pas si elle pourrait absorber ce genre de trafic du point de vue de la sécurité. Pour conclure, aujourd'hui, le chantier en cours et produirait à terme 10 millions de tonnes de CO2. C'est considérable. Mais penchons-nous, j'en termine, sur le long terme. Si l'on part du principe qu'une fois mise en service et pleinement opérationnelle, ce corridor éviterait la circulation d'un million de camions par an à minima, c'est aussi considérable, l'empreinte carbone de la construction serait compensée dans les 15 années suivant la mise en service. Et il faut se rendre compte qu'un tunnel, ça dure longtemps.
Merci Victor pour cette nouvelle chronique. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Il est 18h25, du coup c'est bientôt la fin de l'émission Curiosité sur Prune. Merci du coup à toute l'équipe et également à Cléo qui était à la réalisation. Ah oui, merci à Cléo. Du coup, c'était la première fois qu'il... Parce que sachez que l'émission, vous ne pouvez pas nous écouter s'il n'y a pas quelqu'un qui est sur cet aspect technique. Et c'était Cléo ce soir. Merci également du coup à Julie de nous avoir supervisés. Merci également à tous les invités. Toute l'équipe vous fait un petit coucou. Et également un petit coucou spécialement à Maud et Titouan qui ne sont pas là du coup aujourd'hui, mais on pense à eux. On se retrouve dans tous les cas lundi prochain, même jour évidemment, même heure. Prenez soin de vous, restez à l'antenne tout à l'heure du coup à 19h, c'est l'œil politique. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur nos réseaux sociaux et on vous retrouve lundi. Dans tous les cas, vous avez intérêt à être là. À bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Tchuss.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 et en podcast sur prune.net.